Bonsoir à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver en ce vendredi 17 juin 2016 et merci d'être fidèle sur ce programme, la tribune de presse que nous avons le plaisir de vous présenter. Dans ce studio, je m'en vais saluer Jean-Louis Miasekama. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Antenne A, rédacteur en chef du desk économie. Antenne A, c'est une télévision privée qui est mise à Kinshasa. Peter Tiani, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général du Ré Journal, partenaire à Canal Congo Télévision et certains autres médias quinois. Et puis, au téléphone, Jean-Chamboui Batoubenga. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes journaliste et directeur de programme à la Radio-Télévision Atlantique, une télévision émettant à Matadi dans la province du Congo central. Et je dis aussi bonsoir à André Mongou qui assure la mise en onde de ce numéro. Et pendant trois quarts d'heure, messieurs et chers auditeurs, nous allons décrypter, analyser l'actualité de la semaine. Nous parlerons notamment politique avec le dialogue congolais. Le facilitateur Idem Kodjo a annoncé mardi 14 juin dans une conférence de presse qu'il va rencontrer Étienne Tshisekedi. Ce qui lie l'opposition à Bruxelles, ainsi que le groupe parlementaire au dialogue pour discuter de la tenue de ce forum. Objectif, aller vite dans ce dossier, vous l'entendrez d'ailleurs dans ce journal. Et puis en économie, nous parlerons de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Il se change désormais à 1000 francs congolais pour un dollar. Quel impact sur le social congolais? Mais avant tout, voici la revue de presse qui nous présente Alain Hirung, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Cette revue de presse commence par l'annonce d'Edem Kodjo, facilitateur du dialogue national, le mardi 14 juin à la presse congolaise et étrangère, sur son chronogramme pour faire avancer les choses. C'est parti pour un round concernant la facilitation renseigne la prospérité. Revenu dans la capitale congolaise il y a peu, après avoir été rappelé en consultation à Addis Abeba, Edem Kodjo a annoncé au cours d'une conférence de presse à Kinshasa son désir de se rendre à Bruxelles pour y rencontrer Étienne Tshisekedi qui vient d'être porté à la tête du rassemblement de l'opposition politique. Dans son éditorial du jour, Forum des As affirme Genval charrie aussi du bon. À l'image du prosélytisme pro-dialogue mené tambour battant par Étienne Tshisekedi en personne, un baratin qui a payé. Côté opposition, le camp des Antilles se rétrécit comme peau de chagrin. Répondant aux questions des journalistes, Edem Kodjo a exprimé son regret de constater que certains politiciens interprètent mal la résolution 2277 dans son alinéa 10 informe l'avenir. C'est ce qui empêcherait même jusqu'à ce jour la tenue du dialogue. Entre-temps, les membres de l'opposition qui ont assisté au conclave organisé par Étienne Tshisekedi affirment ne pas prendre part au dialogue selon le format Kabila. Concernant la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, 7 sur 7 points c'est des titres. RDC, dépréciation du franc congolais, la banque centrale prend des mesures. Et au site de poursuivre que la surchauffe sur les deux segments du marché de change est réelle depuis le 22 février dernier. Pour africanews.com en RDC, la chute du franc congolais entraîne une hausse des prix de première nécessité. Selon radiocapi.net, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain a également entraîné l'augmentation du prix de certains produits sur le marché de Kinshasa. Notamment le riz, l'huile végétale, le lait, le maïs, a constaté un journaliste de Radio Kapi. La même situation est observée notamment à Kisangani dans la Tchopo et Beni au Nord Kivu. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, il y a notamment la clôture mercredi 15 juin en RDC de la session parlementaire de mars. Aubin Minaku se réjouit de la qualité de la production législative, titre Forum des As. L'Avenir s'intéresse également à la clôture de la session de mars à la Chambre basse du Parlement en titrant « Aubin Minaku rappelle la nécessité du dialogue ». La Prospérité titre, quant à elle, à sa une, « L'Assemblée nationale vote des sanctions contre l'ADG Constantin Benguele ». Le journal révèle que les députés nationaux réunis en plénière mercredi 15 juin dernier ont pris la résolution de demander au gouvernement de suspendre l'ADG du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle.
Merci Alain Hirung. Dans l'actualité de la semaine, vous le savez, les opérateurs des télécommunications ont revu à la hausse le prix des mégabytes depuis quelques semaines. Le vice-premier ministre chargé des postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication a affirmé que le gouvernement congolais n'a pas demandé aux opérateurs des télécoms d'augmenter le prix des connexions Internet. Thomas Louaka a même demandé à l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, ARPTC, de mener une enquête. Alors, Jean-Louis, vous avez suivi suivi sûrement cette actualité. Comment vous avez analysé ce dossier?
Parmi les causes, on voit qu'il y a plusieurs secteurs. Chacun se renvoie la balle. D'un côté, les opérateurs, de l'autre côté, l'autorité de tutelle, représentée par le vice-premier ministre Maluaka, et la RPTC, l'organe de régulation. Mais il faut savoir, malheureusement, dans l'optique, si on prend dans l'optique qu'on évoque pour cette augmentation une taxe qui a été imposée ou réactivée, malheureusement, ça répond à l'optique qui a été toujours de fortement imposer le secteur des télécommunications. Et c'est le quatrième en termes d'imposition le plus élevé, notamment, par exemple, pour l'achat des portables. La pénétration aurait été plus forte, elle est autour de 50%, 49, 10, 41, 49, pendant 50, la moitié à peu près. Mm-hmm. Nous sommes le plus grand marché de portables en Afrique centrale, 40 millions, mais on pourrait être plus. Cela a été freiné par le fait que le marché des portables est très imposé. Il y a des droits d'assises de 27,7%, on compare encore la TVA, et le quatrième marché le plus imposé. Et ce qui fait que le taux de connexion, surtout à Internet, est en moyenne, sur une étude de Deloitte il y a une ou deux années, de 160, 190 minutes, inférieur à la moyenne africaine, inférieur à la moyenne rwandaise et pas mal d'autres pays. Et on continue dans cette logique, malheureusement, en imposant encore l'Internet. Prenons nos confrères de Congo Web qui travaillent beaucoup, qui misent sur ça, c'est faire exploser leurs charges. Et en oubliant aussi que nous sommes signataires, si on n'est pas encore, mais on sera signataire ou on est signataire des ODD, des objectifs de développement durable, qui font de la connexion Internet un objectif. D'accord. Donc c'est vraiment une décision malencontreuse.
Peter, il y a les experts dans ce domaine qui disent que si les prix de la téléphonie et ceux de l'Internet restent inchangés, les opérateurs des télécommunications seront en difficulté et certains risquent même de fermer leurs portes. D'ailleurs, Jean-Louis le disait un peu en sourdine. Qu'en pensez-vous?
D'abord, c'est quand même grave parce que j'ai suivi personnellement le VPM de PTNTIC qui a parlé de la RPTC. Je me pose la question de savoir qui est responsable par rapport à cette situation. Seulement la RPTC point barre, ou y a-t-il d'autres responsabilités? Selon les informations de notre procession, les entreprises de télécom disent qu'ils ont été surchargés de taxes. Nous sommes dans un pays où la pression fiscale pose problème. Pour avoir une société dans ce pays, il faut avoir des reins solides. Alors il y a eu tellement de taxes que ces sociétés voulaient aussi, veulent se retrouver. C'est comme ça qu'ils ont augmenté les prix. J'étais en train de lire sur Internet. D'ailleurs, ici, je vois un confrère m'envoyer des éléments 6 gigabytes en RDC. Pour Tigo, par exemple, c'est $100 pour avoir 6 gigabytes. Le même Tigo au Rwanda, c'est $20. Au Ghana, c'est $15. Vous avez Vodacom pour avoir 6 gigabytes, c'est $100 en RDC. En Afrique du Sud, c'est $20. En Tanzanie, c'est $10. Je ne sais pas. Le pouvoir d'achat du Congolais est-il élevé par rapport aux autres pays, raison pour laquelle on nous fait cela? Ou est-ce que le gouvernement congolais est en train de mettre sa population dans une situation pareille? Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que déjà, pour se connecter, ça devient difficile. Qui est responsable de cette situation? C'est le gouvernement. Parce que lorsque vous taxez les gens de manière assez, brutale, et la conséquence, c'est quoi? Ceux-là qui payent vos taxes...
Même si le gouvernement, à travers le VPM, dit que ce n'est pas lui qui a demandé aux opérateurs d'augmenter le prix.
Ça, c'est quand même grave. Parce que nous sommes dans un pays où il faut que ça...
En tout cas, il l'a dit.
Nous sommes dans un pays où il faut apprendre à réguler. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un peut venir dans ce pays, il ouvre sa société, il fixe le prix comme il veut, et sous l'œil impuissant du gouvernement, ça c'est grave.
D'accord.
C'est plus dans le secteur de télécom. C'est-à-dire, il y a eu des taxes, ces taxes ont fait à ce que ceux qui utilisent même les réseaux vont voir qu'il y avait même des forfaits, des suppléments, de flexi et tout, qu'aujourd'hui ça a pratiquement changé, parce que les gens doivent se retrouver. Et par rapport à ça, le Congolais est en train de payer. C'est dommage, c'est comme ça que j'appuie l'idée, au lieu de faire une journée sans presse, comme le veut l'UNPC, il faut descendre dans la rue. C'est garanti par la Constitution. Il faut descendre dans la rue, faire un sit-in comme nos confrères l'ont fait devant l'hôtel du gouvernement et ailleurs.
Vous avez fait d'ailleurs une très belle passe à Chambouyi. Chambouyi, il y a l'Union nationale de la presse du Congo qui a appelé à observer chaque lundi une journée sans presse au cours de laquelle les médias ne diffuseront pas. Comment vous analysez cette action?
Merci. Je salue tout d'abord les confrères qui sont avec vous sur le plateau. Ici, Nous saluons quand même cette fois-ci la façon dont l'INPC a pensé directement réagir par rapport à cette hausse. Mais ce qui nous a intéressé le plus chez nous dans notre rédaction, c'est tout d'abord la manière dont ce dossier est traité par le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Quand il dit,
ministre
moi-même,
de
j'ai constaté une hausse brutale et excessive. Donc lui, il constate comme nous avons constaté, alors que c'est lui le responsable numéro un. Hein? Vous comprenez que ça nous a dépassé. Finalement, nous nous disons, est-ce que ce pays est gouverné? Mon frère, vous savez que qui est celui qui est aujourd'hui le patron de Pétain-Pic? C'est celui-là qui a passé des émissions et des émissions pour dire « Je connais le Congo ». Nous avons eu au moins l'espoir que maintenant il y a quelqu'un qui connaît le Congo, qui connaît les difficultés des Congolais, qui connaît les souffrances des Congolais. Les choses vont marcher dans ce secteur si sensible. Mais curieusement, celui-là en qui on avait placé peut-être la conscience, nous dit que « Je suis surpris ». Donc, ça nous a tellement étonnés et on se demande, parce que on se demande finalement qui va effectivement prendre en charge la souffrance des Congolais. Et les confrères l'ont signalé par rapport à ce secteur. C'est un secteur très sensible. Vous savez que son prédécesseur, le premier qui était à ce ministère de Pentic, celui-là, Kinke Mulumba, il avait même, à son époque, vous vous rappelez, qu'il suggérait que la carte SIM se vende à $50. Donc, ils avaient déjà dans leur tête là, ils savaient, ils voulaient déjà augmenter. Ils trouvent maintenant que comme les matières premières posent problème, maintenant là il faut trouver de l'argent, c'est avec le secteur des télécommunications, alors il faut déranger les consommateurs, et c'est ça qui nous étonne.
D'accord.
Et ouais, vous savez, je veux passer bon. Ce qui me tombe de plus, vous savez très bien qu'il y a la loi cadre numéro 013 de 2002. Du 16 octobre 2002 sur la télécommunication. Mais la loi est claire. Le ministre est là pour assurer les conditions d'écoute et d'efficacité pour l'économie nationale et pour les usagers, le développement du secteur.
D'accord.
Mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes, constat dénominateur commun est que les gens qui gèrent ce secteur, ça aussi je ne comprends pas, c'est ça la question que nous posons dans le Congo central, pourquoi ce secteur est toujours donné aux anciens belligérants. Il y a eu celui d'IRCB, il y a eu d'IMLC. Bon, ce sont des gens qui... Bon, on ne peut pas penser que ce n'est pas dans le secteur des télécommunications.
D'accord. Et l'autre actualité de la semaine, c'est la clôture de la session parlementaire du mois de mars. Les députés nationaux et sénateurs ont différemment évalué la session de mars selon leur appartenance politique. Il fallait s'y attendre. Côté majorité, le bilan est globalement positif, à en croire Henri Thomas Lokondo, tandis qu'à l'opposition, le bilan est plutôt mitigé, surtout suite au non-examen des matières importantes comme la loi électorale et le rapport de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, très brièvement, un petit mot, Jean-Louis, comment vous avez analysé cette clôture parlementaire?
Bon, quand même, elle a terminé par l'élection du deuxième vice-président, en la personne de Rudy Massamba. Bon, c'est une continuité par rapport aux critères pour la candidature, mais je pense qu'effectivement il fallait examiner les choses importantes de la loi électorale, c'est important.
D'accord. Peter, très rapidement, bilan positif, mitigé,
c'est clair et net, parce que là où on a attendu l'Assemblée nationale, on ne l'a pas trouvé. Vous vous souviendrez que le dossier Est, c'était à huis clos. Qu'est-ce qu'on devait cacher à la population? Obeminako est en train de rater l'occasion d'entrer dans l'histoire, comme l'a fait Caméré, comme l'a fait Monseigneur Monsengo, comme l'a fait Olivier Kamitato. Là où il est, il peut faire de cette Assemblée nationale le véritable temple de la démocratie. Malheureusement, même quand il y a des motions contre Matata, c'est Matata qui tire sur une Assemblée nationale qui peut l'éjecter, et c'est dommage parce qu'il n'y a pas de réaction.
Merci. Chambouy, très rapidement, comment vous avez analysé ce bilan de la session parlementaire? Très rapidement.
Bilan mitigé, vous savez très bien qu'ils ont terminé sans qu'il y ait le calendrier électoral, ils ont terminé, il y a des lois importantes qui ne sont pas aussi votées. Le bilan mitigé, bien que à chaque fois qu'il y a clôture des sessions, on parle toujours qu'on termine sur le sentiment de satisfaction, sentiment de satisfaction. Bon, ce sont des formules protocolaires qu'on connaît déjà.
Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons parler du dialogue. Le facilitateur du dialogue national, Edem Kodjo, a annoncé mardi dans une conférence de presse qu'il va rencontrer Étienne Tshisekedi et l'opposition à Bruxelles, ainsi que le groupe de soutien au dialogue pour discuter de la tenue de ce forum. Il exhorte ceux qui tergiversent encore à revoir leur position pour aller de l'avant, estimant que le dialogue qu'il fasse n'est pas différent de celui voulu par la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute.
Ce problème du dialogue que l'on présente comme le dialogue de Kabila, tantôt comme le dialogue que la communauté internationale doit organiser, ce dialogue que je suis en train de faciliter était soutenu par les Nations Unies. Je demande à tout le monde de reprendre la résolution 2267 et de la lire. Le fait pour les Nations Unies de t'indiquer que ce dialogue est le bon et que tout le monde doit y participer ne veut pas dire que tout le monde a compris ce langage. Vous voulez que je démarre immédiatement quelque chose de partiel. Vous voulez qu'on essaie encore de ramener une partie de l'opinion dans ce processus. Ma patience est aussi infinie que celle du poète qui a dit qu'il était prêt à boire toutes les eaux du Congo. Donc, j'exercerai ma patience dans les limites supérieures. Mais il est évident que si on se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire du tout, on ne fera plus rien du tout.
Edem Kodjo était au micro de Jeff Ngoye. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que Berry Franklin Lutchaka, qui vous présente cette tribune de presse, reçoit dans ce studio Jean-Louis Miasuekama, journaliste à Antenne A et rédacteur en chef du Desk Économie. Antenne A, c'est une télévision privée qui émet ici à Kinshasa. Peter Tiani, directeur général du Vrai Journal, partenaire à Canal Congo Télévision et certains autres médias quinois. Et au téléphone, Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur de programme à la radio-télévision Atlantique, une télévision émettant à Matadi dans le Congo central. Une question à vous tous, messieurs. Comment vous avez analysé les propos que vous venez d'entendre d'Edem Kodjo? Jean-Louis.
Oui, ce qui est intéressant, il essaie de recentrer le dialogue. Il dit que ce n'est pas un dialogue de Kabila, ce n'est pas un dialogue de tel. Et que, en fait, il dit, je crois, explicitement, implicitement, que c'est un dialogue qui doit être sous l'égide de la communauté internationale.
Comment vous l'avez trouvé dans ses propos? Il était patient, il était exaspéré. Comment vous l'avez trouvé?
Bon, d'un côté, ils sont peut-être exaspérés par certains qui refusent le dialogue, qu'il faut nécessairement, comme des irréductibles, convaincre au dialogue. Mais de l'autre côté, je pense que conforté par sa position, parce qu'il est sûrement reconnu et par l'ONU et par l'Union africaine, je pense qu'il commence peut-être un peu à reprendre espoir.
Mm-hmm. Mais il y a dans certains milieux politiques, on affirme que la déclaration d'Edem Kodjo qu'on vient d'entendre, c'est une sorte de réponse aux conclusions de l'accord des Genval de l'opposition politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, à Genval, ils sont d'accord pour le dialogue sous le format justement légitime de la communauté internationale, sous l'accord cadre. Et donc, je pense que c'est une piste intéressante et c'est une piste aussi pour lui. Et c'est, on peut dire, un peu dans ses eaux. Ça peut, de certaine manière, le conforter.
Alors, Peter, comment vous avez analysé les propos que vous avez entendus d'Edem Kodjo?
Les propos d'un homme exaspéré, d'un homme à bout de souffle. Il nous avait dit, dans une semaine, nous allons avoir le comité préparatoire. C'est presque 2 mois passés maintenant, nous n'avons pas toujours ce comité préparatoire. Les gens qui étaient avec lui d'accord pour ce dialogue, Mbika et consorts, sont aujourd'hui en train de prêcher pour son départ. Bitakwira a dit que sa grand-mère va maudire ce dialogue, puisque nous ne faisons pas partie du comité préparatoire. Il y a eu Genval, il faut dire que Kodjo avait rencontré Tshisekedi avant.
Et il va le rencontrer encore une fois.
Et après, aujourd'hui, il y a eu Genval, il y a eu tous les opposants autour de Tshisekedi qui ont adulé Tshisekedi, qui ont ovationné Tshisekedi. Vous voyez un Tshisekedi aujourd'hui leader de l'opposition avec un dialogue par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous le voyez encore venir dans un dialogue convoqué par Kabila, chef de l'État de la RDC.
Mais est-ce que l'accord cadre d'Addis Abeba est toujours d'actualité aujourd'hui, parce qu'il y a déjà la 2277 des Nations Unies qui soutient le dialogue finalement?
Moi, je suis en train de comprendre l'action de Tshisekedi et de Genval sous l'angle politique. Ça veut dire que peut-être que Tshisekedi était de bonne foi à venir dans un dialogue, mais il y a eu des actions qui ont frustré les partenaires. Première action, c'est d'abord la CENI qui dit qu'il faut 16 mois, les élections de le délai vont poser problème.
16 à 17 mois, oui.
Deuxième action, c'est les députés de la majorité, pendant que Kodjo est en train de vouloir convaincre tout le monde, eux saisissent la Cour constitutionnelle qui donne un mandat bonus au chef de l'État. Et troisième action, c'est le PPRD avec son secrétaire général, béret rouge, habit noir, en train de dire que nous allons aller à un référendum qui, vous savez, vous et nous ici, que le référendum, c'est justement l'élection du président. Mais pour le cas du référendum, c'est deux idées qu'on confronte. Contrairement pour l'élection du président, c'est des individus.
Donc... Mais sans vous couper, vous avez suivi Jean-Louis qui estime que les deux camps veulent aller au dialogue. C'est justement ça. On comprend que les deux camps veulent aller au dialogue. Mais c'est quoi qui dérange finalement? C'est le fond ou la forme?
Non, d'abord, pour si vous avez lu les résolutions de Genval, non au dialogue convoqué par Joseph Kabila. Ça veut dire...
Donc déjà la forme...
Déjà la forme pose problème. Pour eux, c'est les Nations Unies qui doivent, je ne sais pas, une nouvelle fois bénir Kodjo et dire « nous appelons au dialogue ». Pour eux, Kabila, faisant partie du problème, ne peut pas venir, lui, il convoque le dialogue. Sinon, ce sera la concertation bis où il a convoqué. Et puis après, les résolutions, il y en a eu 700 environ. Et aujourd'hui, on n'a même pas appliqué 100. Donc, eux veulent que ce soit les Nations Unies, la bénédiction des Nations Unies. Tu sais qu'elle vient avec sa bande, avec tout le monde. Et Joseph Kabila vient avec son équipe. Et on parle sincèrement. On parle parce que ce sera plus un dialogue technique par rapport au processus électoral. Et vous savez, l'objectif ici, c'est quoi? Si vous lisez les résolutions, l'objectif ici, c'est il y a un deadline. Il y a une constitution, une loi qui nous protège tous, qui doit être respectée. Et cette constitution dit dans son article 73 que les élections sont convoquées 90 jours. Cette constitution dit que le mandat s'arrête, c'est deux mandats, un mandat une fois renouvelable. 5 ans, 10 ans, point, 19 décembre, c'est fini. Alors pour Genval, le 19 décembre, tout s'arrête.
D'accord.
Comme on se souviendra. Alors, ils veulent aller à un dialogue pour finaliser ça. C'est-à-dire qu'il y ait un engagement ferme du président sortant que je ne vais plus me représenter. De l'autre côté, ce qui est politiquement difficile, les manigances qui ont été concoctées depuis jusqu'ici, je suis quand même assez dubitatif pour que les violences s'accordent, parce que de l'autre côté, il y a quand même une mauvaise foi de pouvoir faire les choses.
D'accord.
Comme l'eau de roche.
Alors, Chamboui, vous avez suivi vous aussi les propos du facilitateur Edem Kodjo. Comment vous les avez analysés?
Merci Franklin. Edem Kodjo est sur la bonne voie. Edem Kodjo, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand intellectuel africain. Il connaît bien la RDC. Il connaît ce pays. Il connaît les acteurs de ce pays, les acteurs politiques. Vous vous rappelez que dès que Edem a commencé son travail, il avait accepté pour donner les 12 places qu'on demandait dans les comités préparatoires du dialogue à l'UDPS. Edem Kodjo connaît très bien que les dialogues dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'idée de M. Étienne Tshisekedi, l'idée qui a été récupérée par nos frères de la majorité présidentielle, ayant trouvé que l'idée est bonne. Et Edem connaît très bien que sans Tshisekedi, les choses ne marcheront pas. Vous le savez très bien, même les amis du PPRD avaient déjà déclaré en Europe, avant même que Kodjo arrive, que si l'UDPS n'est pas là, les choses ne marcheront pas. Après tous ces balais politiques, après tous ces contacts qu'il a pu avoir, il a encore compris, il reste serein. Il sait que les dialogues, c'est entre les camps Tshisekedi et les camps Kabila. Maintenant, il y a des gens qui sont les amis de la majorité, les gens qui sont en train d'essayer de vous rappeler, je vous avais dit l'autre fois, que juste après du contraire, je suis de ceux qui disent que l'Assemblée nationale, dans la configuration d'aujourd'hui, est monocolore. Ça veut dire que c'est l'Assemblée qui se retrouve, la majorité présidentielle et ses alliés. Parce que les gens qui s'opposaient à cette majorité, c'est que Diller avait demandé de ne pas siéger, ces gens n'ont pas siégé. Alors, la majorité et ses alliés créent beaucoup de théâtre autour de ces dialogues. C'est ainsi que vous avez entendu les autres dire que leur grand-mère va maudire les dialogues si lui n'est pas là. Mais la réalité est que les gens savent très bien que les dialogues, c'est entre Étienne Tshisekedi et M. Kabila.
Oui, mais...
Connaissant bien cela, c'est pourquoi il va à Bruxelles. il va rencontrer Tshisekedi. Tshisekedi reste fermement convaincu que le dialogue, c'est la voie du salut.
D'accord.
Mais dialogue, comme on dit ici, que le dialogue convoqué par le cabinet, non, nos frères de la majorité présidentielle vont seulement annuler leur ordonnance et on rentre dans le bon sens. Et le dialogue va avoir lieu.
D'accord. Alors, Chambouy, vous dites que nos frères de la majorité vont annuler leur ordonnance et puis le dialogue va avoir lieu. Est-ce que vous pensez que le président peut revenir sur sa décision, c'est-à-dire annuler son ordonnance convoquant les dialogues? Et donc, comment ça va se passer de manière concrète?
Mais c'est un problème d'amour du pays. Si effectivement le président... Ils ont eu tout le temps d'organiser les élections. Ils ne l'ont pas fait dans les délais. Il y a la constitution qu'il faut respecter. Ce sont eux qui constituent le problème.
Mais ce n'est pas
le problème aujourd'hui, c'est la majorité.
Mais
c'est la majorité qui n'a pas correctement travaillé conformément au pacte signé avec le peuple congolais.
Mais justement, Chambouy...
Ils n'ont pas bien travaillé.
Oui.
Et que maintenant, il y a un problème qui se pose et que la voie est déjà balisée par le FND 77. Hein? Alors... C'est question d'agir d'une manière conséquente. Vous vous rappelez, très bien, ce n'est pas la première fois, il y a eu Sankcité. Sankcité, est-ce que c'est Mobutu qui avait convoqué Sankcité?
D'accord. Ok, ça c'est votre analyse, mais nous avons eu dans l'émission Dialogue entre Congolais un des cadres de la majorité présidentielle, je ne veux pas citer son nom, mais il a affirmé, il a démontré arithmétiquement que c'est l'opposition qui est en train de bloquer le dialogue et qui est en train de mener le pays dans vers un gouffre, affirmant que même le dialogue là, c'est eux qui sont les initiateurs. Comment vous analysez cela?
Mon frère Franklin, notre frère de la majorité a fait cette analyse, on l'a suivi. Mais c'est sa façon de voir les choses. Mais tout le monde connaît qui n'a pas organisé les élections. Et tout le monde connaît qui crée les opposants. Aujourd'hui, on est en train de créer. Vous savez, je me réfère souvent à une phrase que Monseigneur Monsengo disait à l'époque lorsqu'il a été nommé pape. Il a dit
cardinal.
Je remercie le pape parce qu'il m'a créé cardinal. Et lorsqu'il a été nommé cardinal, il a dit je remercie le pape parce qu'il m'a créé cardinal. Est-ce que vous voyez aujourd'hui que la majorité présidentielle est en train de créer les opposants? Ils sont en train de créer Moïse Katumbi. Hein? Ils sont en train de le faire, tous ceux qui sont en train de faire pour distraire les autres, créer un opposant, et au final, ils vont vous dire, voilà, c'est ça. Non, mon frère, la situation de ce pays est connue. Il y a deux camps qui doivent se parler. Tshisekedi et Kabila doivent se parler. Et on connaît, alors, tous les opportunistes, tous ceux qui sont autour de ces deux leaders, hein, doivent seulement s'impliquer. Et c'est dans ces deux leaders de donner des injonctions à leurs lieutenants respectifs pour qu'ils puissent voir les choses dans la direction de la paix. Nous avons besoin de la paix. Voilà la situation qui se passe à l'Est. Nous déplorons ça tous les jours. Hein? Nous sommes dans quel pays on parle de... Bon, on va entamer les macroéconomiques. On va démontrer comment on peut parler de macroéconomiques, c'est là qui sont stabilisés, alors que les gens sont en train de mourir tous les jours et on vous dit toujours que la situation est sous contrôle.
D'accord, vous avez sorti une très belle phrase, nous avons besoin de la paix, et ça me pousse à vous poser, messieurs, une dernière question. Quelle chance vous accordez ou vous donnez à cette rencontre entre Étienne Tshisekedi et ses alliés, d'un côté, et le facilitateur Edem Kodjo, Jean-Louis?
Moi, je pense qu'ils pourront essayer d'accorder leur violon. Parce que...
Accorder, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que...
En français, facile.
En français, facile, ça veut dire que c'est, si je veux dire, un rassemblement... Il y a déjà une certaine époque aussi, quand il y avait une crise à l'époque de la démocratisation, tout le monde, tout, que le dialogue on puisse mettre les acteurs du dialogue sur le même terrain. Avec le même arbitre,
parce que déjà là, nous sommes sur deux terrains différents.
Exactement,
c'est
ça en fait.
Alors,
c'est ramener cela. Et cela même est plus profitable pour le pays parce que on est dans une situation électorale, disons électorale. Donc, qui dit élection ou pas, dit après possibilité de vide, etc. Et je pense qu'il faut une forte implication de la communauté internationale.
Donc, pour vous, les chances ne sont pas vraiment...
Les chances sont, peuvent aller de 50% à 75%.
D'accord. Peter, quelle chance vous accordez à la énième rencontre entre Tshisekedi et ses alliés ainsi que le facilitateur?
50-50, hein, parce qu'il faudrait aussi dire que du côté Genval, on dit qu'on a besoin de renforcer Kodjo d'un panel, dans la mesure où cela se passe. ça peut se faire et ça peut essayer de décrisper la tension. Bon, on a parlé aussi de la libération des prisonniers politiques. Ça vient. Il faudrait que le chef de l'État, s'il. Parce que vous savez que pour l'UDPS, déjà parmi le 12 qui va donner, Diomi fera partie. Ils l'ont dit. Donc, c'est-à-dire que Diomi étant en prison ne peut pas venir. Il faudrait essayer de décrisper la tension.
Il est inculpé pour les crimes des droits communs.
Moi, je vous donne l'information de ce qu'a dit l'UDPS. Il faudrait décrisper la tension. Vous avez Mouyambo en prison qui était à l'hôpital, mais transféré rapidement à Macal avec son pied qui pose problème. Vous avez Christopher Ngoï dans un environnement, si on ne veut pas dialoguer, votre place est à la prison. J'ai rencontré dimanche, j'étais à la prison, les amis de la Lucha, de Filimbi, j'ai des larmes aux yeux pour de voir des jeunes comme moi. Le seul péché qu'ils ont commis, c'est de vouloir réclamer la démocratie dans leur pays et leur place est en prison. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Tout ça, c'est des choses qui dérangent. Si on peut avoir des actes de bonne volonté qui peut démontrer que bon, on veut aller vers une réconciliation. Parce que l'objectif ici, il faudrait le dire, le vrai ennemi, le vrai problème au Congo, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas l'opposition, c'est la vie des Congolais. Aujourd'hui, le dollar, c'est à 1000. Demain, ce sera à 1100, à 1200, à 1500. Aujourd'hui, les gens continuent à mourir dans l'Est. Il y a l'usure du pouvoir. À un moment de la vie, il faudrait apprendre à quitter les choses avant que les choses vous quittent. Et avec l'alternance, on finira par avoir, en changeant. Le développement, c'est un processus, mais il ne faudrait pas s'accaparer comme si le fauteuil présidentiel était un bien privé et les hommes continuent à vivre dans une situation déconcertante.
D'accord. Alors, Chambouyi, la même question. Quelle chance vous accordez à la rencontre entre Tshisekedi et ses alliés et Edem Kodjo?
Je crois que les choses vont marcher. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que les choses vont marcher. Tshisekedi connaît bien Edem Kodjo, ils vont se parler. C'est Tshisekedi l'initiateur du dialogue. En tant qu'initiateur, il a beaucoup de cartes dans ses pannes. Hein? Il va sortir une autre carte pour que les choses puissent marcher. C'est lui l'initiateur du dialogue, bien que les autres veulent en faire leur paternité.
Et nous avons besoin de la paix pour vous paraphraser. Et voici que nous entrons dans notre deuxième thème de la soirée qui concerne la dépréciation du franc congolais. Le billet vert a atteint cette semaine la barre de 1000 francs congolais pour un dollar à l'achat sur le marché de change. À la vente, c'est-à-dire lorsque le combiste vous vend la devise, le taux est au-delà de 1000 francs pour un dollar. De l'avis des spécialistes du marché, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, considéré comme monnaie de référence dans les transactions commerciales, aura une incidence directe sur les prix des biens et services les plus usuels. Le président de l'association des cambistes explique même que le pouvoir d'achat ne sera pas épargné. Donald Lengo donne plus d'éclairage sur cette situation au téléphone de Daniel Tambinzoni.
Nous sommes en train de vivre une situation de tendance haussière sur les différentes places des marchés d'échange et les taux d'échange continue le chemin de la dépréciation de la monnaie. Et c'est cette tendance-là que nous sommes en train d'observer sur les marchés. Les gens négocient vraiment à 1000 pour les dollars.
Donc, si je viens aujourd'hui avec du franc congolais, je veux acheter le dollar, je ne veux pas acheter à ce prix que vous appliquez là. Ça, c'est le prix à la vente.
Et ça, c'est le prix à la vente et le prix à l'achat. Et ça se négocie au-delà de 1000. C'est ça la tendance sur les marchés.
Malgré ces explications, la Troïka stratégique rassure. Dans un communiqué publié mardi, cette structure qui traite de la politique économique du pays, dont fait partie la Banque centrale du Congo, indique que les risques de l'inflation sont minimes puisque tous les indicateurs sont sous contrôle. Jean-Louis, comment vous analysez ces propos?
Bon, il y a peut-être péril en la demeure, mais on ne peut pas parler, disons, d'une explosion, d'une hyperinflation. Mais il faut tenir compte de pas mal de paramètres. On parlait des questions politiques. Nous sommes dans une année normalement électorale, qui suppose des comportements sur le plan économique. Par exemple, des gens vont pas investir, vont désinvestir, ou vont chercher à acquérir plus tôt. Au lieu d'investir, amener leurs devises pour faire des affaires, pour augmenter, accroître leurs entreprises, etc., ils vont pas le faire, ils vont arrêter, et même diminuer. Et cela veut dire aussi qu'il y a un rapatriement de devises, sortie de devises. Ça fait moins de devises sur le marché. N'oublions pas que nous sommes dans une économie dollarisée. Vous entendez, dans la lingo, monnaie de référence. Même si la dollarisation avait un peu baissé, avec notamment le mobile money et les billets à valeur faciale adaptés. Et, et donc, mais nous restons, le dollar reste la monnaie de référence. Et il faut aussi savoir maintenant qu'il y a un concours de circonstances macroéconomiques qui joue, c'est-à-dire notamment les réserves de change à la banque n'ont cessé de diminuer depuis plusieurs années. À un moment, ils ont eu un pic à 1 milliard 800 millions, et puis ce qui correspondait à presque 8 semaines d'importation. Maintenant, nous sommes à 1 milliard 4, qui correspond à peut-être 5 semaines d'importation.
Mais justement, cette situation est en train de faire du mal au Congolais lambda, le Congolais qui est qui vit au jour le jour avec cette hausse de...
Oui. Parce que le problème, c'est que on a une certaine stabilité, mais les causes qu'on avait décrit avant, de l'hyperinflation, de l'inflation, de l'extraversion de l'économie, parce que nous dépendons de l'exportation des matières premières, cuivre, cobalt, pétrole, tout ça, qui connaissent aussi une forte chute des de leurs cours. Et donc peu d'entrants en dévise parce que
c'est ça que c'est l'explication que vous soutenez que la banque centrale a donnée.
Non, oui, il y a cela, mais la banque centrale aussi n'a pas su comment, notamment arrivé de l'actuel gouverneur, comment accélérer le processus de dédollarisation. Comment accélérer aussi le processus aussi de renflouement de nos réserves de change, c'est-à-dire qu'on devrait arriver, on a que je crois pour le cas de l'Afrique centrale, de la SADC, les réserves de change, la norme c'est 6 mois d'importation, c'est-à-dire que vos réserves que vous avez en banque doivent permettre d'importer pendant 6 mois, mais ici nous n'avons jamais dépassé même 2 mois, et maintenant nous sommes à 5 semaines, donc il y a quand même des questions à se poser.
D'accord, alors...
Peter. Sans compter les déficits aussi. D'accord. Le déficit de la Banque centrale, le compte d'exploitation et le déficit du Trésor.
Très bien. Alors, Peter, comment vous comprenez d'abord cette situation de l'inflation ?
Oui, Jean-Louis, excusez-moi, il maîtrise tellement les questions économiques. Vous voyez, il parle aux initiés. Moi, je ne saurais pas.
C'est pour ça que je lui demande de parler en français.
J'ai pas ce niveau-là d'économie pour parler comme lui. Moi, je veux être direct. Berry, il ne faudrait pas prendre les Congolais pour des canards sauvages. Vous constatez que le dollar, il est à 1000. Vous vous réunissez à 3 à 4, messieurs, parce que vous êtes ministre ou premier ministre, et venez dire à la population que la situation est maîtrisée.
Et sous contrôle.
Et sous contrôle. Nous sommes à Kinshasa, les gens meurent dans l'Est. Mais vous voyez des gens vous dire, non, le pays est calme, ce n'est que de poches des résistances. C'est le pays où nous sommes, hein, où il n'y a pas d'électricité. On paye le noir ici dans ce pays. On paye, il n'y a pas d'électricité. Nous nous promenons tous avec des chargeurs dans les poches. Mais à la fin du mois, on paye la SNEL. De l'eau de la régie des eaux, peu parmi nous prennent ce taux-là. Il y a une eau qu'on appelle aujourd'hui eau pure, je ne sais pas moi, canadienne ou quoi. Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Donc, nous avons atteint un niveau, je ne sais plus si les gens nous considèrent comme des humains. Alors, le dollar, il est à 1000. Vous pouvez avoir la bonne foi de dire aux Congolais, les choses ne vont pas mieux parce qu'il y a ça, à ça, ça. Parce que c'est l'argent du contribuable. Non, vous vous complaisez à nous dire la situation est sous contrôle. J'ai même cru entendre
donc
quelqu'un...
Donc vous ne comprenez pas la réaction de la Troïka.
Je trouve ça ça frise l'insulte. Ça frise l'insulte. C'est cracher sur nous. Ministre veut dire serviteur. Ils sont là pour servir. Ils sont là pour nous rendre des comptes. En fait, les élections, c'est vous voter une majorité. De cette majorité va être issu le gouvernement, parce que le Premier ministre est issu de la majorité. Donc, de vous, la population. Mais lorsque les gens vous parlent avec dédain, c'est quand même regrettable. Aujourd'hui, regardez la situation de la BIAC. J'ai même suivi un communiqué de Ben Minako de l'Assemblée nationale demandant au gouvernement de rembourser 30 millions de dollars à la BIAC. Aujourd'hui, la BIAC est par terre. On ne sait pas qui est responsable. À la limite, on commence à nous dire que c'est les responsables de la BIAC qui doivent être poursuivis en charge de faux fouillons. Aujourd'hui, vous avez le dossier FPI.
Très rapidement.
Où les gens ont notre argent à nous. Les gens ont pris cet argent au FPI. Vous avez Jermaine Kambinga avec Made in Congo. Je suis journaliste. Le rapport, il est à l'Assemblée nationale. Il est public, Berry. Vous avez des ministres qui ont perçu de l'argent. Mais ils doivent rendre des comptes. Justement, c'est ça le problème. Nous avons aujourd'hui un problème. ne nous dites pas qu'il y a la stabilité, parce que vous-même, vous rendez... déjà, cette stabilité avait posé problème. Il y a des années passées où le président de la République nous avait dit, nous sommes de l'année du social. Cette année du social, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si le chef s'est rendu compte que c'est l'année de la destruction du social.
D'accord.
Alors... aujourd'hui, on ne parle pas du panier de la ménagère, mais c'est maintenant le sachet de la ménagère. Alors, quand il y a cette histoire de flambée du dollar, de prix, le franc, la dépréciation du franc congolais, dites-nous au moins pourquoi. Ne nous dites pas que la situation est sous contrôle. C'est comme le prix de l'Internet.
D'accord.
Vous avez un ministre qui vous dit, moi je ne comprends pas, c'est la RPTC. Et ici maintenant, le dollar et le franc congolais, c'est 1000. Vous avez la Troïka, des gens bien vêtus, avec de vestes, cravates rouges, avec des millions de la République pour vous dire, la situation est sous contrôle. La croissance est dans vos vies.
Je sens votre énervement, mais il suffit que je donne la parole à Chamboui. Alors Chamboui, comment vous comprenez cette situation de la dépréciation du franc congolais? Vous comprenez aussi la colère de Peter?
Je souscris vraiment à la façon de voir des choses de mon confrère Peter. Mon frère, vous pouvez vous imaginer qu'il y a dépréciation de la monnaie. Et qui dit dépréciation, vous devez déjà vous entendre à la diminution du pouvoir d'achat. Alors que le pouvoir d'achat de la population diminue, la Troïka vous dit la situation est sous contrôle. Il dit tout d'abord, l'inflation est minime parce que tous les indicateurs sont sous contrôle. Quels indicateurs qui sont sous contrôle? On fait augmenter le prix. Le ministre vous dit lui-même que je suis surpris. Vous comprenez? Le numéro 1 des télécommunications, il se réveille. C'est comme moi, il se dit, oh, je suis surpris qu'on ait augmenté des prix et d'une manière exagérée. Il y a l'inflation, il y a la dépréciation de la monnaie, le pouvoir d'achat de la population diminue. On vous dit non, les indicateurs sont sous contrôle. Quels indicateurs qui sont sous contrôle, mon frère? C'est normal, je ne comprends pas les Congolais. Je ne sais pas, nous sommes frappés par quelle maladie. Hein? On parle souvent de sous contrôle, à Beni, les gens sont en train de mourir. Sous contrôle, Boutembou, la même chose. Quand vous posez des questions, on vous dit non, ce sont les poches de résistance, ceci, cela. Et vous vous rappelez, mon cher frère, hein? On a beaucoup fait la chanson de stabilité du cadre macroéconomique et de la croissance. On en a beaucoup parlé. Nous qui sommes ici à Matadi, voilà ce que nous observons par exemple. Dans un pays où on nous a parlé de la croissance, 6 ou 5, quelque chose qu'on parle souvent ici. Mais ailleurs, à côté, là, à l'Angola, il y a aussi la croissance. Nous ressentons les conséquences de la croissance de l'Angola chez nous. Vous savez ce que nous mangeons aujourd'hui chez nous, à Matadi ici. C'est que les enfants prennent le sucré. Prenez un exemple simple, le boisson sucré. Le bouteille de 33 centilitres qui sont fabriquées ici chez nous, c'est 500 francs congolais. Mais les bouteilles qui nous viennent de l'Angola, de 50 centilitres, 500 francs congolais.
D'accord. Alors, Chamboui, on arrive pratiquement...
Ça fait très mal, vous comprenez? Ça fait très mal alors qu'il y a diminution de pouvoir d'achat.
D'accord.
On va payer les loyers, le panier de manager, les petits commerçants. Vous achetez quelque chose à 200 000 aujourd'hui, vous venez vendre, demain vous serez pris, achetez encore pour revendre.
D'accord. Alors Chamboui, on va conclure parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. Avec cette petite question et très rapidement votre réponse, est-ce qu'on peut craindre le pire dans les jours à venir avec cette dépréciation du franc congolais?
Avec ce pouvoir en place, il faut craindre le pire. Nous, en tout cas, je vous dis qu'on va atteindre la limite des fatalités.
Merci beaucoup, c'est ça aussi votre conclusion. Jean-Louis, la même question, est-ce qu'on peut craindre le pire? Vous avez essayé de justifier un peu les raisons de cette dépréciation, mais vu les questions qui ont été posées ici, est-ce qu'on peut craindre le pire?
Bon, je ne peux pas prédire l'avenir, mais il y a une chose dont il faut tenir compte, je l'ai dit même dans mon analyse hier, on a pris 28 mesures, on a fait un nouveau collectif budgétaire pour réduire le train de vie de l'État. Et bien, qu'on applique ces mesures et qu'on les applique aussi de manière sociale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas réduire davantage chez le petit gagne-pain, le petit peuple, mais réduire surtout au sommet de l'État, au niveau des gens qui brassent le plus d'argent et qui, eux, fassent des réductions de plus de 30% de leur train de vie.
Merci beaucoup. Alors, Peter, très rapidement, votre conclusion. Est-ce qu'on peut craindre le pire?
Il ne faudrait pas craindre le pire, il faudrait constater ce pire et élever des options qui permettront à la nation de survivre à ce pire. À tous les Congolais qui nous ont suivis, une seule chose à dire, c'est que le Congo est à nous, chacun dans son coin, journaliste, jeune, étudiant, médecin, fais ton travail et regarde l'avenir de ton pays. Lève-toi et sauve le pays.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette tribune de presse de ce vendredi 17 juin 2016. Coordination Alain Irung, supervision Péléki Pélamondo, mise en onde André Mongou et présentation Béry Franklin Louchaka. Remarques et suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Merci de rester fidèle au programme de Radio Capi. Ça continue juste après nous.